Voici donc mon exposé, le premier exposé du temps pascal. Nous allons parler de Luther, qui va nous occuper plusieurs séances. L'abbé Huvelin y consacre 90 pages, plus de 90 pages, et il n'est pas toujours facile de les résumer. C'est après le grand schisme, c'est l'hérésie luthérienne qui fut probablement l'événement le plus grave qui frappa l'Église. La personnalité de Luther a des côtés sympathiques et même respectables, mais son attachement à certains points de doctrine regardés en eux-mêmes eut pour résultat un orgueil qui le conduisit à se forger cette doctrine en dehors de toute autorité. De plus, il s'intéressait davantage à la doctrine qu'au salut des âmes. Il voulait aller directement à Dieu sans les prêtres, qu'il finit par considérer comme un intermédiaire gênant. On a comparé son attitude à celle de Christophe Colomb s'embarquant pour l'Amérique tout seul, sans trop de conseillers. Il ne voulait nul intermédiaire pour la confession des péchés. On pense à cet homme qui s'étendit sur le sol, à voir ses péchés dans un trou qu'il reboucha soigneusement. Il pensait que cela suffirait, et que les paroles du Christ, ses péchés seront remis, lui seraient automatiquement consacrés. Comme beaucoup, et parfois comme nous-mêmes, Luther sentait une espèce de vertige devant nos vies, ce tissu emmêlé de tentations, de bonnes intentions, de bonnes actions, et de moins bonnes aussi. Saint Paul le disait déjà dans son épître aux Romains. « Je n'y vois goutte dans ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je ne veux pas. » Plus loin, saint Paul ajoute « Ce bien que je voudrais, je ne le fais pas, je commets le mal que je ne veux pas. » On ne saurait sortir de son péché sans la miséricorde divine, mais Luther voulait s'en sortir par la foi seule, sans la pénitence. Il faut rappeler que si la concupiscence porte au péché, elle n'est pas un péché par elle-même. Jésus, dans son agonie, fut tourmenté à en mourir, selon les termes de saint Marc, mais il a dit « Non ma volonté, mais la vôtre ». Nous sommes plus loin que la simple foi. Dans cet esprit, Luther méprisait les bonnes œuvres, affirmant que Dieu les trouvait inutiles. Il est allé jusqu'à dire « Pêche fortement et tu seras sauvé par ta foi et ta foi seule ». Certes, le Christ a dit que nous étions pour lui des serviteurs ordinaires, certains traduisent même des serviteurs inutiles, dans le sens que nous n'avons rien d'indispensable. Mais, pour ne citer qu'un exemple, le Christ a récompensé ceux qui lui ont remis 2 ou 5 talents, une fois son retour, de manière tout à fait équivalente, rentre dans la joie de ton maître. On peut comparer nos bonnes œuvres aux dessins que les enfants font pour la fête des mères. Ces dessins sont faits avec des matériaux qui leur ont été donnés. Les enfants ne possèdent ni papier ni crayon. Leur valeur artistique est pour le moins discutable, mais ils sont pleins d'amour et de reconnaissance. Ils sont inutiles au sens ordinaire, mais pleins de tendresse. On ne peut suivre Luther lorsqu'il dit que l'humilité consiste à se juger justifié uniquement par la foi, bien que corrompu jusqu'à la moelle. Dieu se contenterait de nous couvrir sans nous guérir vraiment du mal qui nous ronge. Les protestants pensent avoir libéré des âmes que l'Église avait enchaînées avec leurs sacrements. Et pourtant, comment se dispenser de la main du Seigneur qui tira des eaux Saint-Pierre en train de se noyer? Il est faux de dire que tous nos actes sont des péchés parce que souillés d'avance. Serait-ce le cas du bon samaritain? Luther affirmait tout cela de sa propre autorité et disait que chacun pouvait lire la Bible à sa guise sans avoir recours à des commentaires doctrinaux. Il entreprit donc une traduction personnelle, je pense que c'est à partir du grec, probablement pas à partir de l'hébreu. Il entreprit donc une traduction personnelle qui, entre autres, élimine le livre des Maccabées, qui affirme la communion des saints, et l'épître de saint Jacques, qui professe que la foi n'est rien sans les œuvres. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les traductions bibliques posent quelques problèmes. Pourtant, nos œuvres ne sont pas sans valeur aux yeux de Dieu, Il n'est que de lire les récits du jugement dernier et l'importance d'être venu au secours de son prochain quand il avait faim, qu'il était malade, nu ou prisonnier. C'est donc dans ces sentiments, ceux d'une âme torturée en permanence par de fortes tentations et des sentiments de son indignité, que Luther se rendit plusieurs fois à Rome dans les années 1510. Au lieu d'une cité éclairée par le Christ, il trouva une espèce de Babylone assoiffée d'argent et de pouvoir. Il faut dire que le pape était aussi un chef d'État, en rivalité avec la France, l'Espagne, l'Empire et toutes les petites principautés italiennes, ce qui n'est pas toujours compatible avec la simplicité évangélique. Luther fut également choqué par le côté démonstratif, on dirait le clinquant, des dévotions italiennes et de son art. Il n'est que de penser à l'opéra italien dont c'était la Renaissance et de comparer Raphaël à Dürer. En 1517 s'ouvrit l'affaire des indulgences déjà examinée, sur le fond. Un dominicain Tetzel chargé de prêcher la vente des indulgences, afin de réunir les fonds nécessaires à l'édification de Saint-Pierre, prêchait, suivi par un cortège de charlatans qui vendaient des attrape-nigauds et des remèdes de bonne femme. Il prêchait « Vous avez un moyen de délivrer des âmes du purgatoire, ne soyez pas assez cruels pour ne pas les laisser sortir. En même temps que l'argent sonne au fond de la caisse, une âme sera libérée pour un thaler. » C'est très commercial, mais dogmatiquement parlant, hautement discutable. Luther se jeta dans la voie de la révolte avec une audace croissante. Il était un excellent chef de parti, sachant ménager les grands dont il avait besoin. Ses thèses furent bien accueillies par des autorités qui n'étaient pas fâchées de rivaliser avec le pape pour des motifs qui n'étaient pas tous religieux, loin de là. « À la bonne heure, disait Maximilien, empereur d'Autriche, dont on disait qu'il aurait aimé s'instituer pape et absorber en sa personne les deux pouvoirs, voilà qui va mettre en l'air toute la prêtraille. » Tout d'abord, Léon X n'attacha que peu d'importance à l'action de Luther. Il ne commença à s'en inquiéter qu'en 1518 et envoya un légat à Augsbourg où siégeait l'électeur de Saxe qui soutenait Luther. Ce fut le cardinal Cajetan, un homme savant, qui négocia en vain une rétractation de Luther au sujet de l'inutilité des indulgences. Après plusieurs jours de discussion, Luther rompit la conférence. En 1519, il fit paraître un pamphlet, « La captivité de Babylone », où le pape était représenté comme un potentat rétablissant le règne d'une foi violente après une période de douceur. Il est faux de dire que tous nos actes sont des péchés par ce souvenir. Ah, pardon, excusez-moi. Il affirma « Nous sommes tous prêtres ». On entend cela à nouveau. La grâce est donnée à tous pour être en rapport immédiat avec le Christ. Nous n'avons pas besoin de dispensateurs de grâce. En même temps, il sollicitait la solidarité des princes allemands. En 1520, une bulle le condamnait. Luther la fit brûler et jeta les cendres à l'eau. En 1521, eut lieu la diète de Worms qui consomma la rupture avec l'Église et mit Luther au banc de l'Empire, car Charles XV s'était porté en défenseur de la vraie foi. Luther avait l'appui de l'électeur de Saxe. Il ne faut pas oublier l'aspect que l'on pourrait dire public de cette révolte. L'Église était puissante et riche, ce qui entraînait forte jalousie. Plusieurs de sympathisants se séparèrent de Luther, dont Erasme et Rabelais. On peut ainsi résumer les étapes suivies par Luther. Au début, il ne voulait pas détruire la foi, mais en substitue une autre. Il réclamait l'obéissance, l'esprit à la raison violée, autant qu'à la foi. C'était un révolutionnaire dogmatique, seulement la foi. Entre le Christ et moi, personne. La messe, les prêtres, les sacrements, les saints, et même la Sainte Vierge sont réputés inutiles. Pourtant, le Christ nous l'a donné comme notre mère. Il faut être bien audacieux pour juger sa mère inutile. On se sent bien seul après de tels abandons. Un protestant est allé jusqu'à écrire « Les catholiques sont condamnés à l'infaillibilité, mais notre Église est ouverte à tous les progrès, car il n'y a pas de véritable absolu. » Pourtant, le Christ a dit « Je suis la vérité. » Décidément, il faut beaucoup d'audace pour soutenir de telles propositions. On se retrouve devant la tentation de l'Éden de décider du bien et du mal. Ajoutons qu'il ne faut pas oublier que Dieu s'est dit plus tendre que la plus tendre des mères. Ne l'oublions pas en cette année de la miséricorde. Voilà, la prochaine fois, nous continuerons. Je crains que la personnalité et la doctrine de Luther ne nous occupent encore un ou deux mois. Voilà, je vous souhaite un bon temps pascal et puis un bon printemps. À bientôt.